autrement. Donc oui, donc c'est notre quatrième séance de cours aujourd'hui. Et on a encore deux séances ensemble, donc le 18 février et le 25 février. Voilà. Et je vous rappelle aussi, je vais vous envoyer un lien, que nous aurons une séance le 24, le mercredi, donc une septième séance. Enfin, ce sera la sixième, mais ce sera une séance en plus, à laquelle je vous invite à participer. Qui sera une séance donc prise en charge par l'université de Galatasaray dans le cadre du séminaire de Francis Rousseau, donc le vice-recteur de l'université de Galatasaray, qui est aussi chercheur en intelligence artificielle, comme vous savez, et avec qui je suis en partenariat pour cette chaire d'excellence donc à l'université de Galatasaray sur ce thème de la phénoménologie de l'apprentissage profond. Donc il a lui-même un séminaire de recherche qui démarre d'ailleurs le 24 février, donc il ne pouvait pas coïncider avec le mien, on ne l'a pas organisé ensemble, puisque l'université de Galatasaray commence son semestre en fait beaucoup plus tard que nous, donc la dernière semaine de février. Et lors de cette séance du 24 février, donc c'est un mercredi, dans mon souvenir c'est un séminaire qui a lieu en fin de matinée, début d'après-midi, je ne me souviens plus des horaires exacts, peut-être Mout et Rinch, vous avez gardé les dates là. Enfin, j'ai plus les dates avec moi, l'horaire avec moi. Je vous redonnerai ça. Donc c'est un séminaire qui va être consacré où Francis Rousseau fait intervenir un collègue, un chercheur en intelligence artificielle, qui va nous présenter le deep learning, mais sous une forme pas du tout théorique, plutôt pratique, pour nous montrer en fait à quoi ça correspond concrètement. Comment ça se met en place. Donc il y aura plein d'exemples, ce sera très interactif, et je pense que c'est vraiment intéressant que vous puissiez y participer et être là, dans la mesure où ce sera l'occasion justement de découvrir de l'intérieur, hein, d'ouvrir un peu la boîte noire si je puis dire, et de voir de l'intérieur, from within comme on dit dans les approches en première personne, comment fonctionne le deep learning. On est actuellement, c'est vrai que dans ce que je vous ai proposé pour l'instant durant ces premières séances, on est un peu en amont, en fait, de cette technique, de cette technologie, parce que, voilà, c'était compliqué d'y venir immédiatement sans faire un certain nombre de rappels historiques et de voir d'où ça vient, hein, dans les différentes... l'histoire de l'intelligence artificielle, dont on a, voilà, fait un peu une sorte de mise en perspective la semaine dernière, les bases en phénoménologie, dans l'histoire même de la phénoménologie, ce qu'on a vu la semaine d'avant... la mise en route que j'ai proposée à Benjamin de prendre en charge sur le rapport de Varela à la phénoménologie. Donc on a posé des jalons, hein, durant les trois premières séances, et puis on va continuer et on va arriver, j'espère, donc lors de la dernière séance à justement un point qui sera consacré, donc le 25, à vraiment les enjeux de la relation entre la phénoménologie et l'intelligence artificielle, mais dans la dernière mouture en fait de leurs avancées, à savoir dans la relation entre la micro-phénoménologie, ça ce sera ce qu'on abordera à la dernière séance, et le deep learning, donc de la version actuelle de l'intelligence artificielle. Mais ce sera d'autant plus intéressant d'aborder ce point dans la dernière séance, le 25, que vous aurez bénéficié le 24 de cette mise en route pratique, ce que évidemment je ne peux pas faire moi-même, n'ayant pas du tout les compétences pour vous présenter cette version-là du deep learning dans sa dimension pratique. Donc il faut vraiment quelqu'un qui connaisse de l'intérieur la technique, hein, et qui puisse vraiment vous... Et donc je serai moi aussi bénéficiaire, hein, lors de cette séance, bien sûr. Voilà, donc du coup, lors de la séance aujourd'hui, donc on va la consacrer à la troisième étape du plan que je vous ai proposé, à savoir la manière dont la phénoménologie et l'intelligence artificielle se sont rencontrées, cette fois-ci, donc après des deux premières étapes où j'ai travaillé un peu en parallèle avec pour vous présenter l'une et l'autre, donc leur rencontre, aujourd'hui on va traiter de leur rencontre, donc une rencontre qui s'est organisée sur plusieurs décennies, en fin de compte, hein, qui démarre dans les années 60-70 et qui se prolonge jusque dans les années 80-2000 en réalité, donc vous voyez c'est sur une longue période, avec plusieurs postures. et plusieurs mouvements en fin de compte. Hein. Donc on va revenir sur ces deux mouvements qui sont les deux mouvements de la rencontre. Hein. Qui rencontre qui, donc quel pas fait qui de l'intelligence artificielle et de la phénoménologie pour se rencontrer. Dans une rencontre, en général, il y a deux parties, comme deux personnes se rencontrent. Et donc chacun fait un pas, hein, sinon il n'y a pas de rencontre, sinon ça reste unilatéral et il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est une rencontre qui est plus qu'un croisement, qui va vraiment intégrer, enfin permettre une vraie intégration. Comme dans l'exemple de la rencontre de deux personnes, si les deux personnes se croisent, au mieux elles se disent bonjour, hein, on est dans la rue, salut, salut, et puis chacun poursuit son chemin. Donc c'est un croisement, mais il ne se passe pas grand-chose, c'est relativement fugace. Ça reste extérieur, disons. Alors que là, on va avoir affaire à quelque chose de beaucoup plus interne. Juste pour mettre un peu en perspective la façon dont ce qui va se passer aujourd'hui dans ce cours. Ça va être l'histoire d'une rencontre. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, on s'intéressera déjà finalement aux prémices en fait de la microphénoménologie, c'est-à-dire à la façon dont la phénoménologie s'est développée sur la base donc des étapes préalables, hein, de la phénoménologie historique dont j'ai parlé déjà. Et puis de ce que je vais vous présenter déjà un peu aujourd'hui, la phénoménologie pratique, donc un premier ajustement de la phénoménologie historique, justement, qui est lié à cette rencontre. Et on aura aussi la semaine prochaine un petit travail de présentation orale par Bastien Lebel, qui est là avec nous, et qui va nous présenter. Donc j'avais proposé la semaine dernière que l'un ou l'une d'entre vous prenne en charge donc la présentation du petit texte de Francisco Varela, l'invitation aux sciences cognitives, qui est un petit texte assez clair qui retrace les différentes étapes et qui, où il s'inscrit lui-même. En fait, l'idée c'est de le présenter, ce livre, en ayant en tête que c'est une présentation inclusive, c'est-à-dire où Francisco Varela inclut sa propre perspective et sa propre avancée, sa propre radicalisation, à travers l'énaction notamment. Donc je pense que c'est une bonne façon de poursuivre un peu ce jalon qu'on a amorcé avec Benjamin Arnault. Et puis de toute façon ça coïncide avec les étapes que je retrace avec vous, et ça permet d'avoir un éclairage un peu ciblé en fait, hein, sur cette trajectoire qui se situe plutôt sur le versant sciences cognitives, mais qui forcément inclut l'intelligence artificielle, mais du point de vue de Francisco Varela. Donc ça, ce sera la semaine prochaine. Donc une petite présentation d'une vingtaine de minutes par Bastien, à qui je donnerai la parole pour commencer. Voilà. Et en termes de présentation orale, pour celles et ceux qui préféreraient ce mode de validation par rapport à une validation écrite en mini-mémoire ou en explication de texte pour les étudiants qui sont en master MEF, j'ai une autre proposition. En fait, deux propositions en réalité. Une proposition que j'ai déjà soumise à Yosra, en fait, qui en réalité avait s'était mis sur les rangs aussi pour faire cette présentation du texte de Varela, mais malheureusement, bon, un peu trop tard, puisque Bastien l'avait déjà, s'était déjà manifesté à moi. Et donc, du coup, la proposition que j'ai faite à Yosra, mais je ne sais pas si ça vous intéresse finalement, Yosra, c'était de présenter, en fait, un aspect de la microphénoménologie à travers, je vais mettre en caméra là, rapidement, à travers ce livre-là, donc le texte de, je vais vérifier si j'arrive à me mettre en caméra, voilà, pour vous montrer le livre en question. Alors attendez, ça marche pas pour l'instant, commencez à partager, voilà, peut-être que ça va marcher là. Autoriser, il me demande 36 fois d'autoriser. Alors normalement c'est bon, voilà, bonjour, donc on se voit. Et donc le texte en question, j'espère que vous allez le voir, il s'agit d'un texte de Pierre Vermersch. Attendez, est-ce que là, c'est pas top avec ma carte, avec ma... Vous voyez, j'ai un système pour vous. Alors ça c'est le texte de Pierre Vermersch, s'intitule L'entretien d'explicitation. Voilà, je vais retirer ma caméra, tac, voilà. Je vais vous le mettre sur le chat. Donc ça peut être une occasion de présentation si vous avez envie de plonger dans cette dernière version finalement de la microphénoménologie, de la phénoménologie, mais dans sa version, je dirais, plus contemporaine. Donc c'est un texte qu'il a écrit au départ en 1994, mais il y a eu beaucoup de rééditions et beaucoup d'étoffage de ce texte jusqu'à récemment. Et c'est une bonne façon d'entrer dans la microphénoménologie. Enfin, c'est vraiment le texte de base. Alors ça ne voudrait pas dire le présenter en entier, bien sûr, parce que c'est un peu conséquent, mais finalement faire un premier débroussaillage finalement quelle est sa portée, quel est son intérêt. Sachant qu'en dehors du livre, vous avez beaucoup de vidéos que Pierre Vermersch a faites pour introduire l'entretien d'explicitation et à la microphénoménologie. Donc sur Internet, il y a un site qui est très bien fait, qui est le site du GREX. Donc GREX, c'est son site de recherche, groupe de recherche sur l'entretien d'explicitation, justement, GREX. Et si vous allez sur ce site, vous allez trouver énormément de vidéos où il présente de façon extrêmement pédagogique cet entretien. Donc ça vaut la peine de regarder. Ça vaut la peine de regarder pour voilà. Si vous avez envie de faire cette présentation, qui pourrait avoir lieu, ce serait rapide aussi, en une vingtaine de minutes, lors de la dernière séance, donc le 25. Sachant que j'aurais déjà donné des jalons avant, mais bon, voilà, ce serait une prise de parole et ça vous permettrait de valider votre ce séminaire. Hein. Donc ça, c'est une possibilité. Ça peut ne pas vous convenir, enfin voilà, donc faites-moi signe si ça vous intéresse. En fait, l'intérêt, j'essaye de vous vendre un peu la chose, l'intérêt de faire ce petit travail, c'est que ça vous met directement au cœur, en réalité, d'une version très contemporaine de la phénoménologie, donc de son point de bascule entre une phénoménologie historique encore très située dans la description des structures de l'expérience du sujet, donc de façon assez générale, à une phénoménologie qui prend à bras-le-corps finalement l'empirique et qui s'attache à la description d'une expérience singulière, d'une expérience située, hic et nunc, et qui donc prend au sérieux finalement la singularité, en fait, qui ne se satisfait pas de décrire des structures, mais qui veut vraiment entrer dans la vie interne, personnelle, située, singulière du sujet. Donc il utilise toutes les ressources de la phénoménologie historique dans sa version descriptive et expérientielle, mais qui la prend au sérieux, en fait, qui nous dit, voilà, on va arrêter de dire d'exiger, en fait, une description du sujet de l'expérience, mais on va le faire vraiment, vous voyez. Donc voilà, j'essaye de vous vendre un peu la chose. Sinon, ou aussi, il faut voir si on a le temps, il y aurait la possibilité de prendre la parole sur les enjeux politiques et éthiques du deep learning dans des versions qu'on a déjà évoquées, donc soit la référence à Stigler, soit à Yves Citon, soit de manière plus large. Il y a aussi un article dont je n'ai pas la référence ici, mais qui travaille justement sur la gouvernementalité politique du deep learning. Donc je pourrais vous passer la référence, ça pourrait être, voilà, travailler sur cet article, le présenter en tant que tel, c'est assez ciblé, ça nous mettrait directement vraiment au cœur de la question. Donc voilà, ça c'est les possibilités, et sinon vous avez déjà en tête toutes les autres possibilités en termes de validation en mini-mémoire. Et donc je reviens pas trop là-dessus pour qu'on perde pas trop de temps aujourd'hui, mais surtout... faites-moi signe, envoyez-moi un mail dès que vous êtes déterminé, de façon à ce que on n'arrive pas à la fin des séances sans que vous ayez vraiment fait votre choix et que vous sachiez ce sur quoi vous allez travailler. Hein. Alors je remercie Oumoud qui entre-temps m'a donné à nouveau les références de la séance du 24 février, donc que vous avez tous sur le chat, mais que je mentionne oralement aussi pour l'enregistrement. Donc Francis Rousseau a suggéré une date, le mercredi 24 février, de 11h à 13h30. Donc heure française, hein, on est bien d'accord, Mout, puisqu'il y a 2 heures de décalage avec la Turquie, donc ça c'est les heures françaises, pour une présentation du deep learning dans sa pratique concrète, donc ça c'est moi qui ai écrit ça comme ça, from within, à l'occasion d'une conférence de Anastase Karandonis, donc effectivement, donc voilà, j'arrivais pas à retrouver son nom de famille, Anastase Karandonis, qui est par ailleurs un enseignant à Paris, en fait, qui enseigne à Paris, à Jussieu, je crois, à l'université de Jussieu. Je crois que c'est l'heure française. À vérifier, mais je crois que c'est ça. C'est moi qui ai dû rétablir, en fait, pour vous. Voilà. Donc voilà pour tout ce qui est organisationnel, qui est très important puisque ça encadre le travail qu'on fait. C'est pas aussi important, mais quand même, c'est nécessaire et c'est vraiment utile. Alors, pour ce qui est de notre séance d'aujourd'hui, donc je vous ai transmis cette fois-ci l'extrait donc de Hubert Dreyfus que Nicole avait bien voulu me scanner dans la version française disponible chez Flammarion. Donc le texte français de Dreyfus correspondant à What Computers Can Do. Donc normalement, vous avez reçu, j'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises, désolé, vous avez reçu une rafale de mails. Donc je vous ai transmis donc le texte anglais, donc qui est disponible sur internet, sur le site Full Text of What Computers Can Do, Internet Archives. Donc ça, vous pouvez aller le reprendre sur ce site, mais vous avez le petit extrait en anglais. Je vous ai transmis donc aussi la traduction automatisée que j'ai enclenchée moi-même pour avoir la version française en matériaux bruts de cet extrait qu'on va regarder. Et puis donc ce que Nicole m'a transmis, à savoir dans le texte français, édition française imprimée cette fois, toute la conclusion. Vous avez toute la conclusion de l'ouvrage et vous avez aussi tout le chapitre 7. Donc le chapitre 7, il intéresse les étudiants qui sont en Master MEF et qui vont travailler sur l'extrait qui se trouve à l'intérieur du chapitre 7. Donc je vous ai redonné toutes les informations par mail. Ce chapitre 7 qui s'intitule « The Role of the Body in Intelligent Behavior », le rôle du corps dans le comportement intelligent, et qui correspond donc dans ce chapitre 7 au passage de la page 162-166, qui commence avec « To conclude, pattern recognition », donc pour conclure, la reconnaissance des patterns, des schémas, des schèmes, jusqu'à la fin du chapitre 7. Donc vous avez le texte français maintenant, dans la version imprimée, vous avez le texte anglais, donc ça c'est pour la validation MEF, et donc pour nous, on a trois versions finalement, de l'extrait qu'on va travailler ensemble, qui est dans la conclusion cette fois, de l'ouvrage, et qui correspond. Donc les trois versions, c'est le texte français imprimé, le texte français traduction automatisée, et le texte anglais. Donc vous avez tout ça, et on va y venir donc un peu plus tard dans la séance. Voilà, donc ça c'est bon. Donc j'en viens maintenant à notre thème d'aujourd'hui, à savoir donc la rencontre de la phénoménologie et de l'intelligence artificielle, qu'on va explorer selon deux versants. Le versant de la façon dont la phénoménologie s'est greffée à l'intelligence artificielle. J'utilise la métaphore et l'image de la greffe parce qu'elle permet de montrer qu'on a affaire à quelque chose de plus interne qu'une rencontre qui serait un croisement, vous voyez, qui serait juste le croisement externe. Une greffe, on a littéralement, quand on greffe un organe dans un corps, qu'il s'agisse du foie, qu'il s'agisse du cœur parfois, ou qu'il s'agisse d'une greffe, disons plus locale, une greffe de peau, par exemple, dans la mâchoire, quand on pratique des greffes pour augmenter finalement la paroi dentaire. C'est quelque chose d'interne, c'est quelque chose qui est finalement inclus dans le corps, qui est quelque chose d'étranger, un corps étranger comme on dit souvent, mais qui est censé s'assimiler, qui est censé finir par devenir moi, s'intégrer, je me l'approprie. Donc il y a tout un processus évidemment d'assimilation, parfois on fait entre guillemets un rejet, c'est-à-dire la greffe ne prend pas, c'est vrai aussi d'ailleurs sur d'un point de vue d'abord de manière plus comment dire première, c'est la greffe quand on greffe des arbres, quand on finalement on inclut donc là on a aussi le souci que cette greffe elle prenne pour que l'arbre puisse croître. En tout cas, c'est un processus d'intégration, et donc ça me semblait plus intéressant à utiliser comme image que évidemment le croisement. Donc, premier mouvement, la greffe de la phénoménologie dans l'intelligence artificielle. Donc, comment elle s'est insérée, comment elle s'est incluse, si vous voulez. Donc, ça, c'est un mouvement qui va de la phénoménologie à l'intelligence artificielle. D'accord ? Et puis, on a aussi le mouvement inverse, qui va se mettre en place durant cette même période, un peu plus tard, dans le temps là, que je vais indiquer, entre les années 60 et 2000, qui correspond à l'ajustement de la phénoménologie aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle, forcément aussi. Hein. Donc, deuxième mouvement, c'est le mouvement d'ajustement. Donc, premier mouvement, la greffe de la phénoménologie. Donc, je l'indique sur le chat. La greffe de la phéno. Et deuxième mouvement, son ajustement, c'est-à-dire comment elle va finalement qu'est-ce qu'elle va en faire ? Qu'est-ce que la phénoménologie va faire de cette rencontre, de cette greffe ? Comment ça va se répercuter, si vous voulez, sur la phénoménologie et sur sa transformation ? Est-ce qu'elle va en être transformée ? Est-ce qu'elle va en rester indemne ? Vraisemblablement pas. Hein. Justement, l'idée, c'est de montrer qu'il y a eu un effet transformatif de la phénoménologie du fait de cette greffe. Donc c'est forcément un deuxième mouvement, puisque ça prend acte de la greffe, donc l'un précède l'autre. Mais en même temps, ce sont deux mouvements qui sont aussi en interaction l'un avec l'autre. Bon, c'est un petit peu abstrait, hein, mais c'est un cadrage pour essayer de vous montrer en fait ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est complexe. Il ne s'est pas juste passé une chose comme ça épisodique, et c'est un travail de fond. D'où le temps que ça a pris, entre les années fin des années 60 et des années 2000, hein, ça fait quand même 30-40 ans. Donc il y a eu ces différents mouvements. Ces différents mouvements, ils se situent sur le fond d'une option de l'intelligence artificielle, dont on a déjà parlé la dernière fois, qui est l'option connexionniste. Hein, donc c'est depuis cette compréhension-là de l'intelligence artificielle que se sont produits ces différents mouvements et que s'est produit cette rencontre dans son ensemble. Donc, la version connexionniste de l'intelligence artificielle, on l'a déjà vu, s'oppose à sa version purement symbolique, purement formelle, donc elle inclut évidemment une préoccupation pour le monde, et elle produit des machines connexionnistes dont on a parlé la dernière fois, qui résonnent en termes d'inclusion du monde dans la machine. Hein, donc ils considèrent que le monde est partie prenante finalement du processus donc, qui est en jeu dans une intelligence artificielle et qu'il n'est pas finalement juste un input qui serait mis au départ et qui serait ensuite géré de l'intérieur hein, et intégré de l'intérieur sans qu'il y ait aucune répercussion, aucun retour. Le connexionnisme est un processus plus complexe que simplement une manipulation de symboles avec une donnée initiale un peu de type stimulus, hein, comme dans le behaviorisme. C'est beaucoup plus complexe puisqu'on part d'un certain nombre de données, bien sûr aussi, qui sont donc les éléments du monde. Mais ces éléments du monde, eh bien, ils vont être organisés de telle sorte que ce qui va se passer dans le processus finalement d'émergence, eh bien, ça va être l'émergence d'une complexité. Donc on avait vu aussi que ce modèle connexionniste, il prend appui, c'est un modèle neuronal. Hein, le modèle, entre guillemets, du modèle connexionniste de l'intelligence artificielle, c'est le modèle de l'émergence du fonctionnement neuronal qui fait émerger de la complexité depuis des données élémentaires. Donc qui enclenche un processus d'intégration. Et pas simplement un processus de manipulation formelle successive des symboles placés, additionnés, juxtaposés les uns à côté des autres. Donc c'est un autre processus. Et donc l'émergence, ce qui émerge à la fin, donc la complexité qui émerge, eh bien c'est justement le monde en tant que tel, revu autrement. Hein, la manière dont il y a une sorte d'analogie entre ce que produit le cerveau en termes de complexité, donc l'intelligence qui en ressort finalement, l'intelligence qui est proposée comme intelligence artificielle cette fois dans le cadre d'un réseau connexionniste d'éléments mis en relation les uns avec les autres, connectés justement, Et donc cette totalité qui émerge en dernière instance, qui du coup est différente et transformée, il y a un effet transformatif finalement que produit le connexionnisme. Donc c'est depuis cette version-là de l'intelligence artificielle que la rencontre peut se produire. Et on comprend que ce soit la condition pour qu'il puisse y avoir une mise en relation avec les options de la phénoménologie, dans la mesure où si on était juste dans un dispositif symbolique purement formel, ce qui caractérise la phénoménologie comme discipline qui met au centre l'expérience, l'humain et le monde, on verrait pas comment il peut y avoir un lien. Il n'y a pas eu de rencontre d'ailleurs au début. C'est pour ça que j'ai tracé des parallèles. Par principe, ne se rencontrent pas. Quand j'ai travaillé sur les deux premières étapes, finalement, voilà, ce qui s'est mis en place dans les deux premières étapes, à savoir la phénoménologie historique d'un côté qui avait certains liens avec les sciences, mais bon, un peu dispersés, des prémices, on va dire, et puis l'intelligence artificielle dans ses premières dimensions qui s'est construite donc dans cette controverse, ou en tout cas ce travail avec dans la distinction entre le symbolique et le connexionnisme, on voit bien que la phénoménologie à ce moment-là est pas du tout impliquée. Donc c'est sur le fond de cette option connexionniste de l'intelligence artificielle que la phénoménologie va pouvoir intervenir. Et donc elle va intervenir, donc là on est dans le premier mouvement de greffe, elle va intervenir en fait de deux façons. Elle va intervenir d'une part dans une posture justement d'intégration, et ça c'est la posture que représente Francisco Varela. Donc Francisco Varela, c'est ce chercheur neurobiologiste chilien dont le travail va se caractériser par un mouvement donc de mise en relation entre le monde et le cerveau. C'est-à-dire en fait que sa posture dans son ensemble, on en a déjà parlé lors de la toute première séance avec Benjamin, sa posture dans son ensemble, ça va être de considérer que on peut pas réduire le cerveau finalement à un ensemble de neurones. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette phrase célèbre du philosophe Crick. Je ne sais plus quel est son prénom, je crois que c'est Samuel ou je ne sais plus très bien, qui dit qu'en fait le cerveau, dans une de ses formulations les plus radicales et caricaturales, le cerveau n'est qu'un paquet de neurones. C'est une formulation très réductionniste, comme on dit, c'est-à-dire qui réduit littéralement le cerveau à un ensemble de neurones, enfin l'esprit en réalité à un ensemble de neurones, de façon assez amorphe et peu organisée. Donc évidemment, bon, par rapport à une formulation aussi radicale et aussi caricaturale, mais qui est assez dominante encore, je dirais, dans un ensemble de recherches en sciences cognitives et en philosophie d'esprit. Donc une perspective qu'on nomme aussi éliminativiste, parce qu'en fait, elle élimine la dimension de l'esprit ou de la conscience au profit justement de la structuration matérielle électrique et chimique finalement des synapses et des neurones qui se relient, qui s'associent. Donc la posture de Varela est une posture qui est située aux antipodes de cette conception réductionniste et éliminativiste. Et donc d'une posture donc exclusiviste, enfin qui considère que finalement ce qui nous intéresse c'est le cerveau et seulement le cerveau comme réalité matérielle, et le lien que le cerveau a avec la conscience ou avec l'esprit, ben, finalement on n'en sait rien. C'est ce qu'on a appelé pendant longtemps. Il y a un gouffre d'explication, un gouffre d'explication entre le cerveau et la conscience. En anglais on appelle ça le explanatory gap. Explanatory gap, donc un gouffre d'explication, c'est comme ça que c'est traduit en français, c'est-à-dire qu'en fait il y a un gouffre, il y a vraiment un gap. Alors gap en français, en anglais c'est un peu moins énorme que gouffre, mais en français on a accentué le fait que vraiment ça n'a rien à voir, on peut rien expliquer, on peut rien en faire, et donc du coup on va construire une étanchéité forte entre les deux, Et on va considérer qu'on peut, on peut finalement pas grand chose, pas dire grand chose de la conscience ni du rapport à la conscience, si ce n'est que c'est que par contre le cerveau, on sait ce que c'est, on peut l'étudier, on peut faire des études scientifiques extrêmement rigoureuses sur ce plan. Donc bon, la posture de Varela est une posture qui est complètement située aux antipodes de cela, et qui va s'attacher au contraire à toute sa, finalement toute sa trajectoire scientifique va consister à intégrer, à chercher à intégrer les deux dimensions. Et l'intégration de ces deux dimensions va requérir justement une conception finalement de l'esprit qui ne soit pas non plus réductrice. Hein. C'est-à-dire que dans la philosophie de l'esprit, comme vous savez, dans la version un peu limitative et réductrice de l'esprit, on réduit l'esprit à des états mentaux, donc à des états mentaux internes, et à la dimension de la représentation. Donc la posture de Varela sur le terrain de l'esprit, cette fois, va être aussi une posture ouverte, une posture d'intégration, et va considérer qu'en fait, un esprit ou une conscience qui n'est pas incarnée, c'est-à-dire qui n'est pas reliée à son corps, d'une part, au monde, d'autre part, c'est-à-dire en fait au contexte, eh bien ce n'est pas une conscience. Donc il va falloir penser la conscience dans sa dimension la plus large, une conscience corporelle, comme le dit Merleau-Ponty. Donc là, Varela va être très relié justement à la perspective de Merleau-Ponty de ce point de vue-là. Donc il va considérer que la conscience, c'est une conscience corporelle, ou bien ce n'est pas, ou bien ce n'est pas une conscience. Et il va aussi prendre appui au tout début sur Heidegger, en considérant que l'esprit, le sujet, eh bien, il est au monde, ou bien il n'est pas. Et donc c'est ce qu'il va appeler, chez Heidegger, c'est ce qu'on appelle le Dasein, donc l'être au monde. Donc vous voyez, la posture de Varela, c'est une posture qui inclut la phénoménologie, déjà au tout début avec ces deux auteurs, Merleau-Ponty et Heidegger, en considérant que la phénoménologie, elle joue un rôle décisif, crucial, justement pour repenser le cadre et pour ouvrir en fait l'esprit et la conscience sur le corps, le monde et le contexte, qui sont des parties intégrantes de la conscience et de l'esprit. Et pour, évidemment, par rebond, penser le cerveau comme autre chose qu'un ensemble de propriétés matérielles, mais se poser la question de sa relation interne, finalement, avec cette dimension donc, qui est la dimension de l'esprit ou de la conscience. Donc ça, c'est la posture de Varela, décrite de façon assez globale. Et on va voir ensuite, immédiatement, donc, les différentes étapes de, de son évolution. Et puis, on a une autre posture, toujours dans ce mouvement de greffe de la phénoménologie aux sciences cognitives et à l'intelligence artificielle, qui est la posture de Hubert Dreyfus, qu'on a déjà évoqué, qui, lui, est un philosophe. Donc, c'est pas un scientifique, c'est un philosophe américain. Et donc lui, il a une posture qui n'est pas une posture d'intégration comme Varela, mais qui est une posture d'interrogation critique. Donc on a déjà un petit peu évoqué son travail, on va y revenir, on va regarder l'extrait plus en détail après. Donc en fait sa posture, c'est de mettre en critique finalement le projet des sciences cognitives, de l'intelligence artificielle directement, de montrer ses limites. De montrer les limites de ce projet, qui, rappelez-vous, dans les années 70, est caractérisé par un optimisme sans fin et par, du coup, une injection financière déterminante aussi pour alimenter, je dirais, le moulin de l'optimisme. Donc, Hubert Dreyfus intervient dans ce contexte politique et financier aussi, au MIT, donc dans ce grand centre de recherche américain, et aussi d'édition américaine, et il va, donc c'est un peu le cheval de Troie en fait du MIT, puisqu'il va infiltrer le MIT et produire la critique la plus virulente qu'on ait jamais vue de l'intelligence artificielle à ce moment-là. Donc on va revenir sur lui après. Donc ça, c'est les deux postures principales que je voudrais examiner aujourd'hui, et puis on le fera sans doute encore un peu la prochaine fois. Et vous voyez que ces deux postures qui sont très en miroir l'une de l'autre, d'un certain point de vue, qui sont opposées, en fin de compte, mais qui convergent toutes les deux dans un diagnostic qui est le diagnostic, justement, de la nécessité de la greffe de la phénoménologie. Parce qu'en réalité, Hubert Dreyfus, développe son interrogation critique sur la base philosophique, finalement, d'une prise en considération majeure de la philosophie de Heidegger, notamment. Donc la référence phénoménologique est déterminante hein, chez Hubert Dreyfus. Si vous avez lu l'extrait que je vous ai, les extraits que je vous ai proposés, et notamment celui de la conclusion de son livre, vous avez vu en fait que c'est au nom de la phénoménologie qu'il produit en réalité cette critique de l'intelligence artificielle. Mais vous voyez que dans la manière de procéder, il ne le fait pas du tout comme Varela, qui lui a une posture d'inclusion, hein, qui cherche à faire travailler les deux ensemble. Donc il ne produit pas une critique en tant que telle de l'intelligence artificielle ni des sciences cognitives, même s'il en montre les limitations et il en refuse le paradigme réductionniste et éliminativiste. Mais en tant que scientifique, eh bien, il est persuadé qu'on peut faire un travail d'intégration hein, et que la critique doit s'alimenter d'une construction possible, d'un scénario positif, ce qui n'est pas le cas de Dreyfus, qui lui reste finalement philosophe dans ce qu'il y a de plus... le noyau de la philosophie, à savoir l'instance critique, mais qui ensuite ne propose pas une construction, un développement positif de l'issue. Alors, donc ça, c'est les deux versants de la greffe, entre guillemets. Et puis, donc, le deuxième mouvement que j'évoque maintenant et que, sur lequel je vous reviendrai ensuite, c'est le mouvement inverse, c'est-à-dire comment la phénoménologie s'est elle-même ajustée, recomposée, transformée, du fait de cette rencontre, du fait de cette greffe. Donc le mouvement d'ajustement, de transformation ou de recomposition de la phénoménologie, donc c'est qu'est-ce que la phénoménologie a fait de cette rencontre. Et pour le dire encore très rapidement, en fait, ça correspond à un passage qui va impliquer la mise en pratique, qui va impliquer ce qu'on pourrait appeler le tournant pratique de la phénoménologie. Le tournant pratique, donc ça c'est le versant transformation de la phénoménologie. Transformation de la phénoménologie. Voilà. Et donc, tournant pratique, on pourrait dire aussi, tournant pratique de la phénoménologie, qui va se trouver emblématisé, en fait, dans essentiellement dans un ouvrage donc, que j'ai déjà évoqué, hein, donc, qui s'intitule « À l'épreuve de l'expérience », en français « À l'épreuve de l'expérience », pour une pratique phénoménologique, pour une pratique phénoménologique, je vous l'écris, vous l'avez dans la bibliographie, hein. En anglais c'est On Becoming Aware, The Pragmatics of Experiencing, The Pragmatics of Experiencing. Donc ce livre, il a été écrit en anglais, il est paru en 2004. La traduction française est beaucoup plus tardive, elle date de 2011. Mais le travail a été fait entre 1995, grosso modo, et 2001. Et c'est le résultat donc, d'un travail en coopération entre Francisco Varela, Pierre Vermersch, justement, dont on a déjà parlé, celui qui a mis qui a fondé l'entretien d'explicitation, et moi-même. Donc ça, c'est vraiment le travail fondateur, à mon sens, qui a mis en scène un autre paradigme pour la phénoménologie, c'est-à-dire un paradigme pratique. C'est-à-dire qu'ils prennent au sérieux, finalement, justement, la vertu de la référence à l'expérience du sujet et de sa description, et qui en fassent plus qu'une exigence, en considérant que ça demande à être réalisé, à être effectué. Donc évidemment, cette phénoménologie, on pourrait dire qu'elle a aussi une composante empirique, ce qui peut sembler, d'une certaine manière, aux antipodes du projet initial de Husserl, qui décrit des essences, hein, donc qui décrit des idéalités. Mais d'une certaine manière, bah, c'est ça la vertu transformative en fait, du passage par le travail expérimental, justement, qui est aussi en jeu dans les sciences cognitives, mais aussi en intelligence artificielle. Donc finalement, la transformation, la vertu transformative que produit la rencontre avec les sciences cognitives et l'intelligence artificielle dans ces années-là, la vertu transformative de la phénoménologie, eh bien, c'est de lui remettre les pieds sur terre, d'une certaine façon, conformément à ses exigences initiales d'ailleurs, hein, donc en toute cohérence finalement avec son projet initial, qui est un projet de, comme le dit Husserl, de retour aux choses elles-mêmes. Hein, il faut quand même se souvenir que Husserl, dans ses premières formulations de la phénoménologie, nous parle d'un retour aux choses elles-mêmes, un retour aux choses elles-mêmes, c'est-à-dire revenir à l'expérience, en allemand, zu den Sachen selbst, retourner aux choses elles-mêmes, donc revenir à l'expérience, ne pas s'en tenir à des textes et à des commentaires de textes, mais d'écrire des expériences réellement effectuées. Grosso modo, voilà le projet de cet ajustement de ce deuxième mouvement. Alors, on en reparlera évidemment, mais je voulais déjà vous décrire le cadre d'ensemble dans ces deux mouvements et dans ces différentes postures, donc Varela, Dreyfus d'un côté, et puis ce projet de phénoménologie pratique et de retour à l'expérience à travers cet ouvrage On Becoming Aware, qui donc date de la fin des années 1990, début des années 2000. Donc vous voyez, on arrive en bout de course, hein, en bout de cette troisième étape, parce qu'évidemment, il faut tout le temps de maturation des décennies qui précèdent. Alors, pour avancer un tout petit peu, voyons maintenant, de façon encore assez synthétique, quelles sont les différentes étapes de la trajectoire de pensée de Francisco Varela. Donc je vais avoir trois temps maintenant. Un temps où je vais vous donner des éléments sur l'évolution de la trajectoire de Varela. Un temps sur le projet de Hubert Dreyfus, et on va regarder le texte que je vous ai envoyé. Et puis un petit temps, j'espère, sur le projet de phénoménologie pratique et On Becoming Aware. Sachant que la semaine prochaine, on reviendra sans doute sur ce troisième temps. Donc concernant Francisco Varela, donc c'est un chercheur qui est né donc en 1946 et qui est décédé de manière brutale d'un cancer du foie en 2001. Donc il a vécu, il est mort très jeune finalement, mais il a été très productif, et en fait on peut distinguer trois grandes étapes dans sa pensée, trois grandes étapes de constitution de sa pensée et de son travail scientifique. Donc une première étape qui correspond à un lieu aussi, qui correspond à un moment et à un lieu, alors qu'il est encore au Chili, hein, puisqu'il est né à Santiago, il va être formé par un professeur chilien, donc, qui s'appelle Humberto Maturana, qui va être son mentor, d'une certaine façon, hein, qui va être l'enseignant qui va vraiment... en tant qu'étudiant, qui va tout lui apprendre. Quelqu'un qui est aussi un scientifique, un biologiste, en fin de compte, Maturana, et qui va l'amener à, finalement, très vite, devenir un allié, un co-chercheur. En fait, Varela et Maturana vont vraiment travailler ensemble à partir d'un certain moment, comme des co-chercheurs. Et ils vont mettre en place, donc, c'est la première étape du travail de Varela, ils vont mettre en place un modèle qu'ils vont appeler l'autopoïèse, du terme autopoïèse, donc poïèse du grec poiein, hein, qui signifie donc fabriquer, créer, je vous le mets en écriture latine, qui signifie donc créer, fabriquer, construire, produire, et auto, donc aussi un terme grec, signifie soi, de soi-même, et donc à travers ce terme d'autopoïèse, qui est donc un néologisme, hein, qui réfère de manière très directe, exclusive à la première théorie finalement de l'organisme de Varela, hein, et de Maturana, donc c'est une théorie de l'organisme, donc c'est une théorie biologique qui s'attache à montrer l'interrelation forte et interne entre le vivant et son environnement. Donc vivant, environnement, interrelation forte. Donc, pour décrire cette interrelation forte entre le vivant et l'environnement, ils vont aussi forger un terme, ils vont utiliser le terme de couplage en français, qui en fait en espagnol correspond au terme acoplamiento, littéralement s'accoupler. Donc on a évidemment aussi une référence à l'organisme dans sa dimension de relation sexuelle. Mais ici, ce terme est pris dans un sens très transversal, très large. Et il inclut aussi donc des dimensions même formelles, hein, puisqu'en fait, le couplage, c'est aussi une façon de montrer comment les données se relient, les données donc se relient de façon aussi formelle et mathématique. Donc en fait, le terme est transversal et il va du formel au matériel, le plus matériel et le plus subjectif et le plus corporel. Et il cherche à décrire finalement un mode de relation entre le vivant et l'environnement, qui soit un mode d'intégration. Le terme d'intégration, je l'ai déjà utilisé, mais je ne vais pas cesser de le réutiliser parce qu'en fait, il décrit la posture de Varela. Donc en fait, le couplage, être couplé, hein, littéralement, eh bien, ça signifie être... Alors, le couple, hein, on a l'image du couple aussi, évidemment, de la dimension conjugale, conjuguée. Hein, donc, être couplé, c'est être relié de manière forte et en même temps être différent. Hein, donc, évidemment, il n'y a pas non plus de fusion. Hein, il y a aussi un refus, finalement, de la fusion. Il ne s'agit pas de devenir un. Mais il s'agit donc de manifester une relation interne forte. Hein. Et une relation qui passe par une forme de réciprocité. C'est-à-dire qu'en fait, le couplage, ça consiste à traiter finalement les deux parties sur un mode symétrique, en considérant que le vivant et l'environnement, ici, tous les deux sont participants, finalement, à part entière, de manière paritaire, de la construction, finalement, d'une réalité qui les dépasse, qui leur est irréductible. On ne peut pas les réduire, ni l'un ni l'autre ne peut être réduit, la réalité en question ne peut pas être réduite à l'un ou à l'autre. Donc on participe d'une même réalité qui à un moment donné nous dépasse et qu'on fait donc émerger comme une réalité plus complexe. Donc ici vous voyez en fait que le type de pensée qui est en jeu est quelque chose qui doit faire écho pour vous au modèle de l'émergence que j'ai décrit concernant justement la manière dont le cerveau est pensé dans l'approche connexionniste et dont les machines connexionnistes dans l'intelligence artificielle adoptent ce modèle. Hein, on a le même type de processus. On part de deux parties, ici, dans le modèle du cerveau ou de la machine connexionniste, on part de tout un ensemble de données, donc c'est pluriel. Là, c'est duel. On part donc d'un ensemble de parties, deux ou plusieurs. Et ces deux parties, eh bien, elles vont être mises en relation de telle sorte qu'à un moment donné, eh bien, dans le processus lui-même, se dégage une réalité plus complexe qui est irréductible aux éléments de départ, qu'ils soient deux ou plusieurs. Donc en fait, ici, vous voyez, on a déjà une modélisation qui épouse totalement, enfin qui est totalement cohérente en fait, avec ce qu'on a évoqué concernant les machines connexionnistes et le fonctionnement du cerveau dans l'approche connexionniste. Mais ceci se déploie au Chili, à Santiago, dans ce contexte très local, à un moment où finalement Varela et Maturana ne sont pas du tout en relation avec tout le débat des sciences cognitives de l'époque, de l'intelligence artificielle, ni même de la phénoménologie. Donc c'est une sorte de découverte en soi, qui évidemment ne vient pas de nulle part, hein, qui a des assises dans des pensées antérieures. Hein, par exemple, on peut avoir en tête le modèle des années 20-30 d'un auteur qui s'appelle von Uxküll, d'un biologiste qui a écrit sur le vivant, qui a écrit notamment un petit texte qui est disponible en français qui s'appelle « Mondes animaux et mondes humains », qui a déjà cette... c'est un exemple que Varela aime bien et qui est intéressant pour lui à titre de précurseur de sa pensée. Mais on peut aussi avoir en tête, beaucoup plus, de manière beaucoup plus antérieure, la conception de l'organisme de Kant dans la critique de la faculté de juger, qui justement définit l'organisme dans la première partie de la critique de la faculté de juger, donc en 1791, comme étant justement une réalité s'auto-organise. Donc on a un modèle déjà d'auto-organisation qui s'auto-organise à partir d'elle-même en puisant des ressources dans la relation interne avec l'environnement. Donc en fait, vous voyez ces pensées antérieures précurseurs, elles annoncent bien auto-organisation, par exemple, c'est un terme kantien, mais qui d'une certaine manière correspond à une première formulation de ce que Varela et Maturana appelleront ensuite l'autopoïèse, auto-organisation, autopoïèse. Donc le auto signifie bien qu'on ne se perd pas de vue soi-même, donc il n'y a pas de fusion, Chacun reste ce qu'il est, individuellement. Il y a une autonomie, finalement, de chaque dimension, que ce soit l'organisme ou l'environnement. Et cette autonomie, en même temps, elle est mise en relation de façon interne jusqu'à produire une dimension méta, quelque chose de plus complexe, qui nous dépasse et en même temps dont nous sommes partie prenante. Donc c'est depuis ce premier modèle et cette première étape que Varela va progressivement avancer et qu'il va, en fait, dans la deuxième étape de son travail, il va rencontrer donc la phénoménologie. La phénoménologie, elle apparaît dans le travail de Varela dans un deuxième moment, au moment de l'écriture d'un ouvrage qui s'intitule en anglais « The Embodied Mind », donc littéralement « L'esprit incarné ». Donc « The Embodied Mind », c'est un ouvrage qui paraît en 1989, donc vous voyez, c'est beaucoup plus tard, parce que la première étape donc, de l'autopoïèse, ça date des années 70, on va dire, hein, l'autopoïèse. « The Embodied Mind », donc 1989, et ça va être traduit en français sous un titre un peu différent. Vous ne le trouverez pas sous le titre littéral que je viens de donner, ça va être traduit en français sous le titre « L'inscription corporelle de l'esprit ». Et ça va être traduit assez rapidement en 1991. Donc ce livre, il va être un moment charnière pour Varela, ça va être aussi un moment de passage à un deuxième temps, puisque la phénoménologie cette fois va intervenir de manière frontale. Entre-temps, Varela a découvert la phénoménologie, il a découvert Merleau-Ponty et Heidegger, donc ces auteurs dont j'ai déjà parlé, et qui, en réalité, qui vont donc alimenter et prolonger sa vision des choses. Et donc c'est dans cette deuxième étape que Varela va forger un terme, le terme d'énaction. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est un scientifique, mais il forge des termes, hein. Donc il a cette vertu, cette inventivité conceptuelle qui est souvent propre aux philosophes, à des néologismes qui font sens. Donc c'est assez intéressant parce qu'il est à la fois très inscrit dans les sciences et dans un travail expérimental, et en même temps il a cette inventivité conceptuelle. Et donc l'énaction, eh bien, c'est au cœur de l'inscription corporelle de l'esprit, et c'est un terme qui désigne justement, qui est une sorte de cheval de bataille de critique de la représentation. Alors, il s'agit pour Varela à ce moment-là de se positionner contre des approches représentationnalistes ou représentationnelles de l'esprit, et donc de faire jouer justement à travers le terme enaction, hein, qui vient en fait de l'anglais to enact, c'est-à-dire littéralement enactment, c'est on l'utilise dans le domaine juridique pour désigner en fait une loi qu'on formule, hein, donc on traduit ça parfois par inauguration, hein, enactment. Ou production d'une loi dans le domaine juridique. Mais si on reprend le terme à la racine, hein, to enact, dans to enact, il y a act, donc agir, l'action, et il y a aussi le préfixe en, qui correspond en fait au in français ou latin, qui signifie donc entrer dans. Hein, donc littéralement, en fait, dans le sens que lui donne Varela, enacter ou l'enaction, ça signifie mettre en mouvement, la mise en mouvement. C'est-à-dire le fait de considérer que l'esprit, la réalité d'ailleurs du sujet dans son ensemble corporel, tient tout entier dans sa mise en mouvement. Mise en mouvement dans tous les sens, hein, c'est-à-dire aussi bien au niveau intellectuel qu'au niveau moteur. Donc une mise en pratique, hein, la mise en mouvement, c'est aussi la mise en pratique. Donc le fait que la réalité même du sujet se détermine, se définit par sa mise en pratique. Donc là, donc c'est le moment crucial en fait de rencontre avec la phénoménologie pour Varela, qui se traduit donc par ce changement de paradigme en fait, hein, qui nous fait passer de la représentation à l'action, grosso modo. Donc ça, c'est un deuxième temps qui a lieu, donc qui se produit dans les années 90, grosso modo, oui, c'est ça. Et puis ensuite on va avoir une troisième étape dans sa pensée, donc je passe un peu plus vite parce que Bastien évidemment va nous parler de manière beaucoup plus précise de tout cela la semaine prochaine, et ensuite on a un troisième temps qui est plus court, qui est initié en fait vers la fin de la vie de Varela, donc entre 1995 et 2001, donc qui correspond à sa mort. Donc ce troisième temps que lui-même va intituler en forgeant à nouveau un terme, en forgeant à nouveau un néologisme, il va parler de la neurophénoménologie. Il va inventer finalement une nouvelle façon de relier la phénoménologie et la neurobiologie et la neurodynamique avec un seul terme, vous voyez, un terme qui unifie, qui maintient la distinction neurophénoménologie, mais qui en même temps crée une unité. Et dans cette troisième et dernière étape, en fait, il va se focaliser finalement sur la relation d'intégration justement entre le cerveau et les vécus du sujet. Et donc c'est ce qui va donner lieu justement à une méthodologie qui ne se satisfait pas de montrer le parallélisme entre ce qui se passe dans le cerveau et ce qui se passe du côté de l'expérience subjective, qui va refuser un modèle paralléliste qui ne permet pas justement d'intégration et de prise en considération de la relation forte. Et il va substituer à ce modèle paralléliste un modèle qu'il va nommer lui-même un modèle co-génératif. Donc il va parler de co-générativité. Donc vous voyez, le terme générativité et co-générativité, il est intéressant parce qu'il décrit précisément cette intégration forte des deux dimensions. Il est aussi très dynamique, ce terme. Et il décrit précisément les deux mouvements par lesquels les deux dimensions se relient l'une à l'autre et font émerger à nouveau une dimension qui échappe à l'une et à l'autre, mais dont ils sont chacune des deux dimensions, c'est-à-dire le cerveau d'un côté et les vécus du sujet de l'autre, sont issus. Donc c'est un modèle complexe, un modèle qu'on peut nommer justement aussi un modèle intégratif, et qui cherche à décrire donc justement ce processus qui est un processus de création aussi, il y a de la génération. Donc oui, on sent les sources du travail de Varela dans la biologie, dans le vivant, à travers même cette notion de co-générativité. La métaphore se file, se poursuit. Et aussi la dimension de création, la dimension d'émergence de quelque chose de nouveau, de quelque chose de plus complexe, qui n'était pas donné au départ. Donc vous voyez, il y a quelque chose à travers ces différentes étapes, il y a un fil rouge qui demeure, quelque chose de très cohérent, et en même temps qui montre d'emblée, qui impose d'emblée finalement un modèle très relié avec les travaux initiaux de la machine dite connexionniste, qui nous sert de référence de base finalement pour comprendre toute cette relation avec la phénoménologie. Donc ça c'est la posture de Varela. Bon, je ne la détaille pas plus puisque bon, Benjamin l'a déjà un petit peu mise en scène lors de la première séance, et puis Bastien va y revenir à travers la présentation de l'invitation aux sciences cognitives la prochaine fois. Donc si on s'intéresse maintenant à la posture de Dreyfus, de Hubert Dreyfus, donc qui est, comme je le disais, un philosophe américain donc, qui est décédé lui beaucoup plus récemment, en 2017. On a donc un mouvement très différent, qui ne va pas cesser de se radicaliser tout au long des différentes étapes du travail de Dreyfus, donc radicalisation de sa critique à l'égard de l'intelligence artificielle. Donc pour essayer de séquencer un peu son évolution et sa trajectoire, on peut distinguer quatre étapes principales, quatre temps dans sa trajectoire intellectuelle. Donc quatre étapes de l'évolution du travail de Dreyfus. Donc on a une première étape qui correspond grosso modo avec des années d'enseignement au MIT, donc dans ce grand centre de recherche scientifique américain, dans les années 60. Dreyfus va enseigner au MIT, donc il va être confronté et il va être en relation avec des chercheurs en intelligence artificielle entre les années 1960 et 1969, grosso modo. Donc c'est sur la base de ce terrain finalement de rencontre qu'il va produire sa première grande critique de l'intelligence artificielle. Donc notamment il va être très en relation avec deux chercheurs qu'on n'avait je crois pas évoqués mais qui sont au MIT, donc Alan Newell et Herbert Simon. Et c'est en fait avec eux qu'à la fois il va beaucoup discuter et en même temps contre eux qu'il va produire sa critique. Donc une première phase de son travail philosophique se déploie sur ce mode-là. On va le revoir plus en détail donc dans l'extrait qu'on va regarder, puisqu'en réalité ça va donner lieu justement en 1972 à son premier grand livre, What Computers Can Do, 1972, donc dont on a la traduction française, hein, l'intelligence artificielle, mythes et limites. Et on verra, je vous l'annonce juste comme ça pour commencer, on verra qu'en fait Dreyfus va identifier quatre présupposés majeurs de l'intelligence artificielle dans ce livre. Quatre présupposés majeurs de l'IA que j'indique juste comme ça pour l'instant rapidement. Donc un présupposé qu'il nomme biologique, psychologique, épistémologique et ontologique. Donc bon, c'est des grandes catégories. Il identifie quatre présupposés. On va les regarder plus en détail dans un instant. Donc il y a une charge critique extrêmement forte qui, je vous le rappelle, est vraiment aussi directement liée à l'optimisme par contre-coup, hein, enfin, à l'optimisme débordant finalement des chercheurs de l'époque en intelligence artificielle. Donc une sorte de ramener les gens à la réalité, revenir un peu sur Terre, quelles sont les possibilités réelles en fait, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'on n'est pas en train de développer des utopies, enfin, bon. Donc il y a un constat réaliste et très pragmatique en fait, de Dreyfus dans cette première période. Et puis en fait, bon, on a une deuxième étape qui en réalité dans sa construction est un peu parallèle mais qui en fait, va se manifester un tout petit peu plus tard, qui est l'émergence de la référence à Heidegger, donc deuxième étape on pourrait dire. Donc un deuxième temps, donc je vais l'appeler comme ça, Heidegger à la rescousse, d'une certaine façon. Alors en fait, Dreyfus est un lecteur de Heidegger depuis le départ, hein. Mais simplement la mobilisation de la référence à Heidegger intervient un peu après, en tout cas dans ses publications. C'est quelque chose qui émerge un peu plus tard, hein. D'ailleurs de manière précise, en fait on a donc un texte de Hubert Dreyfus qui se présente comme un commentaire de Heidegger que peut-être, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'intitule donc tout simplement Being in the World en anglais, donc être dans le monde, être au monde en fait, plutôt être au monde en français, et qui se présente donc comme un commentaire, a commentary of Heidegger's Sein und Zeit, donc être et temps. Je l'écris aussi, comme ça vous aurez la référence, c'est plus simple pour vous. Voilà, donc ça c'est le titre du texte de Hubert Dreyfus, qui apparaît justement au MIT Press, hein, donc dans la maison d'édition du MIT, intéressant, en 1991. Donc c'est vraiment le cheval de Troie, c'est vraiment, on a souvent présenté ce livre comme, chez les phénoménologues ou dans la communauté philosophique, on a souvent présenté ce livre comme étant la manière, Dreyfus était celui qui avait réussi à implanter Heidegger aux États-Unis, et en donnant une version suffisamment américanisée, disons, pour qu'il puisse s'implanter. Mais j'irais même plus loin. En fait, moi, je dirais que Dreyfus a même réussi à faire rentrer Heidegger au MIT, ce qui est un peu une sorte de défi absolu, hein, puisque la pensée de Heidegger, on le sait, c'est une pensée qui est extrêmement critique à l'égard de la technique, pas forcément la science comme contemplation, mais du moins la technique, et donc tous les aspects pervers et ambivalents de la technique, comme on le sait. Et donc du coup, le paradoxe que Dreyfus incarne, c'est vraiment cette posture où de l'intérieur même du MIT, finalement, il fait jouer une critique qui est la plus virulente qui soit à l'égard du travail du MIT. Donc on a là un deuxième moment, parce que dans les publications, ça émerge en deuxième, évidemment, dans son histoire. Et donc la lecture de Heidegger qu'il propose dans ce texte, et dans d'autres aussi, hein, que vous trouverez sur Internet, mais c'est quand même la référence majeure, c'est donc une lecture, je vous l'indique comme ça, hein, entre nous, mais c'est intéressant par rapport à notre thématique, c'est vraiment une lecture pratique de Heidegger. Donc, bon, Heidegger, on en a parlé un tout petit peu dans, quand je vous ai fait une sorte de présentation de la phénoménologie historique. J'ai surtout insisté sur sa critique, la critique par Heidegger de la technique et son projet d'ontologie, une ontologie phénoménologique, donc de description de l'être, hein, de l'être en tant qu'être, sa conception du Dasein, donc cet être pour lequel, unique pour lequel il y va de son être, hein, donc par rapport aux étangs qui sont des réalités ontiques et un peu d'évaluer, disons, par rapport à ce que représente la pensée de l'être, hein, qui est évidemment ce qui emblématise en fait la référence à un sujet qui est vraiment conscient de lui-même, pour adopter un vocabulaire qui est encore un peu trop métaphysique pour Heidegger, mais qui correspond quand même un peu à cette valorisation de l'être. Donc j'avais surtout présenté cela. En fait, la position de Dreyfus va être une position qui est... comment dire, qui n'accentue pas cette dimension strictement ontologique, mais qui va plutôt s'intéresser donc à la manière dont on peut lire Heidegger d'un point de vue pratique. Alors qu'est-ce que ça veut dire, lire Heidegger d'un point de vue pratique? Ça veut dire insister essentiellement sur justement cette dimension d'être au monde, donc de in der Welt sein en allemand, donc qui correspond d'ailleurs au titre, hein, de l'ouvrage, in der Welt sein, être au monde. C'est-à-dire en fait sur la manière dont le Dasein, donc cet être, ce sujet pour lequel il y va de son être, hein, cet existant, eh bien, est en relation avec le monde. Hein. Donc c'est vraiment cette dimension relationnelle entre le Dasein et le monde qui va intéresser Dreyfus, et plus particulièrement encore la façon dont le Dasein est en relation d'usage avec le monde. Hein, quelle est l'inscription finalement du Dasein dans le monde dans sa dimension la plus concrète. Et de ce point de vue-là, donc, il va forger un terme qui est un terme décisif en anglais et dans la tradition pragmatiste, qui est la notion de coping with, to cope with, en anglais. Ça veut dire, alors là, les étudiants anglicistes vont m'aider, hein, ça veut dire se confronter à, mais aussi ça veut dire s'ajuster, ça veut dire s'adapter, hein, ça veut dire être en relation d'ajustement, d'adaptation, faire face à une réalité mais en s'y adaptant. Donc c'est ce processus-là qui est en jeu, et en fait c'est ça qui va intéresser Dreyfus, ça va être de montrer justement la capacité d'ajustement du Dasein au monde. Et donc, du coup, il va beaucoup s'intéresser à une expression qui est très importante dans l'être étant, qui est la notion de être à portée de la main. Donc, ce qui en allemand se désigne sous le terme vorhanden sein, être présent, être là, disponible. Hein. On peut le traduire comme ça, être disponible, présent. Donc, être en capacité d'usage, finalement. Et donc c'est cette conception très pratique de la relation du Dasein au monde qui va intéresser Dreyfus. Et là on comprend en fait que Dreyfus est un Américain, hein, c'est-à-dire qu'il hérite aussi il est l'héritier de la tradition du pragmatisme, hein, je l'ai déjà évoqué, donc pratique au sens de pragmatisme. Et le pragmatisme, eh bien, c'est une philosophie qui a été développée par... plusieurs auteurs en amont déjà, et qui évidemment sert de référentiel à l'interprétation que propose Dreyfus de Heidegger, le psychologue William James, mais aussi à peu près contemporain mais un peu antérieur, le fondateur en fait du terme d'ailleurs de pragmatisme, qui est Charles Sander Peirce, et aussi un autre auteur qui a écrit aussi beaucoup sur l'éducation, mais qui a aussi œuvré dans le domaine du pragmatisme, qui est John Dewey. Donc on a un certain nombre d'auteurs phares qui servent de référentiel à Dreyfus pour sa relecture de Heidegger. Mais voyez, donc il y a un travail d'ajustement. Donc la référence à la pratique ici, vous voyez qu'elle est aussi déjà en jeu, hein, et on l'a vu à travers Varela, à travers la notion d'inaction, mettre en mouvement, mettre en pratique. Et on va voir que c'est aussi ce qui va déterminer la transformation de la phénoménologie comme phénoménologie pratique. Donc là, vous voyez, il y a une sorte de socle commun. Donc ça, c'est le deuxième temps de la pensée de Dreyfus. Ensuite, on va avoir une troisième étape qui est en fait qui s'identifie assez bien à travers donc la vous voyez, c'est juste après au niveau des dates, mais qui s'identifie assez bien à travers le deuxième ouvrage de Dreyfus, donc qui s'intitule What Computers Still Can't Do. Donc là, on est en 1992, donc vous voyez, c'est juste 91, c'est le texte de Heidegger, sur Heidegger, 92, la deuxième version du texte de 72, mais qui se présente comme une radicalisation. Hein. 20 ans plus tard, finalement, Dreyfus revient au même constat. Finalement, les ordinateurs, il y a des tas de choses qu'ils peuvent toujours pas faire. Et au fond, il faut arrêter avec cet optimisme qui prétend que on peut construire une machine intelligente qui pourrait tout faire. Et on pourrait, on va le revoir dans l'extrait qu'on va regarder, on peut tout numériser. Et finalement, l'intelligence humaine peut tout à fait être entièrement moulinée dans une machine qui serait elle-même intelligente. Donc cette deuxième critique, elle va radicaliser la première. Et elle va donner lieu dans un quatrième temps à un certain nombre de constats et de références qui, cette fois, engagent davantage la dimension éthique. Donc on a un certain nombre de publications qui sont à la fois situées sur le terrain de l'éthique et aussi dans la dimension politique. Je vous cite par exemple comment dire, il y a pas mal d'articles, hein, que vous pouvez consulter, mais par exemple un article qui s'intitule The Ethical Implications of the Five Stage Skill Acquisition. Donc c'est un article de 2004. Donc je vous mets juste le début. The Ethical Implications. Bon, je vous mets toute la référence. Of the five stage skill acquisition. Alors, vous voyez, le terme de skill, il est aussi intéressant parce qu'il désigne précisément quelque chose, acquisition, je vais y arriver. Voilà. Ce qui désigne skill, c'est la compétence, c'est la capacité, c'est la technique, mais au sens de la façon d'être habile, hein, l'habileté. Donc là, on a chez Dreyfus comment dire, une évolution où il va s'intéresser à un type d'éthique. Aussi un autre texte qui s'intitule What is Morality? Et qui parle de l'éthique, l'expertise éthique, hein, ethical expertise. Donc vous voyez, on est sur une éthique qui est une éthique très pratique, très concrète, très technique d'une certaine façon. Et donc c'est intéressant de voir comment Hubert Dreyfus, d'une certaine façon, relie Heidegger, comment dire, je ne dirais pas contre lui-même, mais fait voir dans Heidegger des potentialités que, évidemment, dans le débat français sur Heidegger, on a très peu visibilisé, hein, puisque finalement le débat français est un débat très binaire, on est soit pour, soit contre, soit on est heideggerien, soit on est anti-heideggerien. Alors que vous voyez qu'en fait, avec Dreyfus, ben, on ouvre une autre possibilité, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc voilà le parcours de Dreyfus, de façon évidemment à cadencer de manière très, très rapide. Et donc je vous propose qu'on en vienne maintenant, si vous voulez, à l'extrait que je vous ai transmis et qu'on le regarde. Alors on ne va pas le lire en détail, hein, ça je vais vous laisser le faire de votre côté, vous l'avez, j'espère, déjà fait, mais qu'on en repère un certain nombre d'éléments intéressants. Et peut-être je vais du coup en profiter pour vous donner un peu la parole, de façon à ce qu'on ait un peu un échange, parce que j'ai un sentiment de solitude là, tout d'un coup, urgent. Quelque chose qui m'envahit brutalement là. Voilà. Et je me dis que peut-être ce serait bien que vous puissiez. Soit vous avez des questions par rapport à ce que j'ai déjà dit, soit peut-être, et en relation aussi, des éléments que vous voudriez indiquer concernant ce texte. Donc pour celles et ceux qui l'ont lu. Alors, soit vous pouvez prendre la parole directement en mettant votre micro, c'est tout à fait possible. Soit vous préférez passer par le chat, c'est à votre convenance. Voilà, pour donner des informations en lien avec ce que j'ai déjà dit concernant Dreyfus et sa critique, Voilà, si on peut être en plus dans une sorte d'interaction concernant donc cet extrait. Donc j'ai les trois documents sous les yeux de mon côté. Donc on est au chapitre 12. Hein. On est au début du chapitre 12, donc qui s'intitule Les limites de l'intelligence artificielle. Donc le texte français, le texte anglais et la traduction automatisée. Pour vous, en attendant que vous vous manifestiez, peut-être je commence un tout petit peu. Donc au départ, ce que je m'étais dit, c'est qu'on allait vraiment regarder de près cette traduction automatisée pour voir justement tout ce que la machine qui a produit cette traduction automatique a réalisé, et en même temps tout ce qu'elle a laissé de côté et qu'elle n'a pas réussi à traduire. Hein, j'ai déjà évoqué, mais c'était une manière de montrer en acte finalement la portée et les limites du deep learning. Juste pour vous donner un exemple, parce qu'après on va pas vraiment revenir là-dessus. Le tout début, hein, si on prend le tout début, vous voyez que c'est traduit dans la traduction automatisée avec « Nous sommes désormais en mesure de rassembler les différents volets de notre argumentation philosophique concernant les limites de l'intelligence artificielle ». Donc ça a été très bien traduit, en tout cas par la machine. Merci la machine, vous avez 20 sur 20. Ensuite, on a la division du domaine de l'intelligence artificielle en deux sous-domaines. Donc là, je continue la lecture. Et ce que dit le texte traduit directement par cette machine, c'est « CONI, la simulation et l'intelligence artificielle a conduit à la traitement de deux questions distinctes mais interdépendantes ». Donc déjà là on a un premier bug puisqu'en fait cogni-la simulation, on voit pas ce que ça veut dire, et puis a conduit à la traitement, là il y a vraiment une erreur de français, donc là la machine connaît pas bien le français. Je fais un peu d'humour, mais c'est pas voilà. Et si on regarde maintenant le texte anglais, avant de regarder la traduction Flammarion sur cette deuxième phrase, on a donc Cognitive Simulation qui apparaît à la ligne 2, Cognitive Simulation, qui a été traduit par Cogni, la simulation. Évidemment, dans le texte français traduit par un être humain, hein, cette fois, on a la simulation cognitive et l'intelligence artificielle au sens restreint. C'est intéressant de faire cette variation, on va évidemment pas faire ça sur tout le texte, mais ça permet de voir justement comment... une intelligence artificielle procède, ce qu'elle repère, ce qu'elle ne repère pas, et comment, évidemment, l'humain est déterminant aussi bien en amont qu'en aval, et pendant. Je vais pas poursuivre sur ce terrain-là, et on va s'intéresser cette fois au texte français directement maintenant, si vous voulez. Mais je vous invite à regarder, hein, c'est intéressant pour prendre la mesure finalement de la réalité même de ce que c'est qu'une intelligence artificielle. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à cet extrait de votre côté ? C'est un extrait que j'ai délimité, qui est un peu long, hein, que j'ai délimité de la page, si on prend maintenant le texte français, donc qui commence en réalité à la page 367. Je l'ai fait aller, grosso modo, jusqu'à la fin de la page 371. Donc, vous voyez, ça fait 5 pages. Évidemment, on ne va pas les analyser de près, hein, mais on va repérer un certain nombre de points. On va s'intéresser, aux différentes présuppositions que j'avais énoncées au tout début, hein, présuppositions biologiques, psychologiques, épistémologiques et ontologiques. Donc ici dans le texte en fait on voit surtout apparaître les deux dernières, mais on peut rapidement revenir sur les deux premières, la présupposition biologique et la présupposition psychologique, les deux présupposés premiers dont il ne nous parle pas, mais ça nous permettra de voir le statut des deux derniers, hein. Donc le présupposé biologique, il consiste en fait c'est un présupposé de l'intelligence artificielle que Dreyfus critique. Il consiste à penser que le cerveau eh bien, il est un pur analogone, il est analogue à du matériel informatique. Et donc que l'esprit, il est analogue à un logiciel. Donc, en fait, selon Dreyfus, cette analogie, elle n'est pas valable, elle est problématique, ou en tout cas, elle doit être questionnée, parce qu'en fait, elle tend à mettre les deux, ces deux dimensions, donc d'un côté le cerveau, de l'autre côté le logiciel, à les mettre sur le même plan. Alors qu'on vient de voir justement qu'on ne peut pas mettre les deux sur le même plan, puisque le logiciel, en l'occurrence, fait des fautes, en tout cas n'est pas capable d'avoir cette intelligence adaptative et relationnelle qu'a un être humain. Donc ce premier présupposé, il est pointé du doigt par Dreyfus. Il va de pair avec un deuxième présupposé, qu'il appelle donc psychologique, et qui consiste à penser que le cerveau fonctionne faisant des calculs, donc en développant des règles, des algorithmes, à partir de représentations données, de symboles qui sont déjà isolés les uns des autres et distincts les uns des autres. Donc c'est un peu compliqué comme formulation, mais c'est cette conception du cerveau en fait que Dreyfus critique. Donc une conception qui réduit le cerveau à un ensemble de représentations distinctes, isolées les unes des autres, des entités finalement qui sont associées ensuite, mais qui sont d'abord séparées les unes des autres, des symboles. Donc on a un certain nombre de symboles. Alors par exemple, enfin de façon très très simple, on pourrait dire voilà, le cerveau, eh bien il a un certain nombre de neurones. Hein. Et ces neurones, ils sont identifiés à telle réalité, hein, à la réalité du langage, à la réalité de... on a longtemps pensé que le cerveau était fait d'un certain nombre d'aires auxquelles on avait assigné des fonctions particulières, c'est-à-dire qu'il y avait l'aire de Broca, l'aire du langage, il y avait l'aire motrice, hein, qui est donc l'aire qui commande en fait tout le développement du corps, il y avait l'aire émotionnelle, le cerveau limbique, etc. Alors, on est encore sur cette conception du cerveau aujourd'hui, hein, bien sûr. Mais au 19e, on avait cette, 19e, début 20e, on avait cette conception, une conception très localisante, hein, très élémentaire, élémentariste en fait du cerveau. Et donc, la présupposition, le présupposé psychologique pour Dreyfus de l'intelligence artificielle, c'est que penser le cerveau comme ça, eh bien, c'est confortable et c'est intéressant parce qu'en fait, ça permet de construire une machine qui va être comme ça. Et vous voyez que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, dans la mesure où on part d'une conception du cerveau qui est déjà tellement problématique et simplifiée, et aujourd'hui remise en question, qu'en fait, on développe une intelligence artificielle qui peut-être est faisable, mais qui ne répond pas du tout, en fait, à la complexité du cerveau. Donc, vous voyez, là, l'argument est assez circulaire. Et puis, donc, dans le passage que je vous ai photocopié, donc... Dreyfus développe les deux autres présuppositions de l'intelligence artificielle, donc la présupposition, le présupposé épistémologique et le présupposé ontologique. Alors on va les regarder de plus près cette fois en regardant le texte. Donc le présupposé, j'essaye de retrouver. Vous avez en fait le présupposé biologique qui apparaît donc. À la page, alors attendez, parce que là je suis sur plusieurs pages en même temps, c'est un peu compliqué. Il est question à un moment donné de vous le retrouverez, il est question justement de la dimension analogique, elle est mentionnée à un moment donné, je sais plus où elle est. Je vais pas réussir à le retrouver là parce que je l'ai noté sur la traduction automatisée. Donc c'est un peu plus tard je pense dans le texte. Ouais, je vais pas le retrouver là. Alors ensuite le présupposé épistémologique, vous le rechercherez. Le présupposé épistémologique, c'est un présupposé qui est fondé dans l'argumentation de Dreyfus dans ce chapitre-là. On voit très souvent comment il fait émerger le schéma de la régression à l'infini et le fait que on inclut en réalité des... on part d'un certain nombre de faits et on considère que ces faits, donc les données, les fameuses données dont on parle et qu'on va mettre dans la machine, ces données supposent des règles, de fonctionnement. On est obligé de présupposer ces règles de fonctionnement pour voir comment ces données elles-mêmes se déploient. Donc on a une sorte de dimension circulaire qu'il analyse comme une régression à l'infini, et qu'il, par exemple, il le formule très bien en bas de la page 368, où je vais prendre tout le paragraphe, en fait, tout le paragraphe de la fin de la page 368, où il nous dit, bien entendu, cette conduite ordonnée, qui ne suit apparemment pas de règles strictes, pourrait résulter de règles observées inconsciemment. Mais si l'on s'efforce de raisonner en posant pour hypothèse que toute conduite suit nécessairement quelque jeu d'instruction, on tombe sur le problème de la régression des règles, c'est-à-dire sur la nécessité d'énoncer des règles régissant l'application des règles précédentes. Et l'on ne peut avoir recours pour mettre un terme à cette régression à des faits ordinaires, puisque selon l'hypothèse de départ, les faits doivent eux-mêmes toujours être identifiés et interprétés selon des règles. Donc là, on voit bien le fonctionnement circulaire de la procédure algorithmique, enfin en tout cas de la machine ici symbolique en réalité, plus même que connexionniste, puisque on a donc l'idée en réalité que l'intelligence artificielle, les chercheurs en intelligence artificielle considèrent que on pourrait partir de données brutes. Et que ces données brutes, on pourrait ensuite en faire des règles, les numériser. Hein, donc, et l'intelligence étant justement aussi l'intelligence humaine correspondant à ces données donc, du monde, et on pourrait les numériser. Donc là, on aurait un fonctionnement linéaire, et ensuite on déboucherait à la fin sur un nouvel algorithme qui nous permettrait donc de nous donner de la compréhension. Mais en réalité, ce que pointe du doigt Dreyfus, c'est le fait que on présuppose qu'il y a des règles qui sont quand même, on présuppose tacitement qu'il y a des règles qui sont disponibles dans lesquelles on va ensuite organiser ces données, même si on ne le dit pas. Et donc du coup, on est sans cesse en train d'être obligé de reposer un certain nombre de règles à un autre niveau pour situer justement la relation à ces données. C'est un peu le même, donc c'est vraiment faire ressortir la circularité même du fonctionnement logique ici, et la nécessité d'avoir appel à un niveau logique supérieur pour prendre en considération le présent niveau logique. C'est un exemple qu'on trouve très tôt en fait formulé par Leibniz, le fameux exemple de la bibliothèque. Qui est très concret cette fois, qui permet de encore mieux comprendre ce dont il s'agit, et où Leibniz se pose la question de savoir finalement, mais comment, où vais-je ranger le livre qui ça va me servir d'index pour savoir où j'ai rangé tous mes livres dans ma bibliothèque. Et donc si j'ai affaire à un index, ça veut dire que j'ai un principe d'organisation, donc j'ai des règles, un ensemble de règles d'organisation de l'ensemble de mes ouvrages. Hein. Ma bibliothèque, c'est finalement... les données, hein, les données brutes, et puis pour les organiser, eh bien, j'ai besoin d'un ensemble de règles, donc d'un autre livre, là en l'occurrence, et ce livre-là, où est-ce que je vais le ranger ? Si je le range dans la bibliothèque, ben, d'une certaine manière, il fait partie du classement, mais il ne me permet pas d'être le principe du classement. S'il est le principe du classement et que je le mets ailleurs, eh bien, d'une certaine manière, je ne peux pas le ranger. Donc vous voyez, on est dans une sorte d'aporie, hein. Et donc là, c'est le présupposé épistémologique que relève ici Dreyfus. Et enfin, le présupposé ontologique, eh bien, il est lié au fait directement que on présuppose que l'humain peut être entièrement numérisé. Donc là, c'est un problème de fond encore plus radical. L'humain peut être entièrement numérisé, c'est-à-dire on ne prend pas en considération le fait que une intelligence, eh bien justement, elle ne répond pas nécessairement à de la numérisation, c'est-à-dire à de la prédiction, à de l'enquistement finalement dans des processus logiques et numérisables. Alors ici, par exemple, on trouve cela nommé très très clairement au paragraphe qui précède, donc à la page 368, quand Dreyfus nous dit. En matière de simulation cognitive, il nous est apparu que les humains, lorsqu'ils jouent à des jeux comme les échecs, hein, vous avez ce paragraphe sous les yeux, lorsqu'ils résolvent des problèmes complexes, lorsqu'ils dépistent des ressemblances ou des airs de famille, lorsqu'ils emploient des métaphores ou des tournures de langage illogiques ou contraires à la grammaire, eh bien, les humains n'ont pas l'impression et ne donnent pas non plus l'impression à l'observateur extérieur de suivre des règles strictes. Au contraire, ils semblent faire appel à une sorte de perception globale et structurée, effectuer des distinctions pragmatiques entre l'essentiel et l'accessoire, avoir recours à des paradigmes et invoquer pour se faire entendre de leurs interlocuteurs une sorte d'intuition commune de la situation en cours. Donc là, finalement, ça c'est le présupposé ontologique que déconstruit Dreyfus en faisant appel ici à des exemples, à des situations particulières, donc d'expérience, donc en faisant appel à la phénoménologie, ici très clairement, à travers les termes qu'il emploie, on le voit très clairement, donc quand il parle de, d'une intuition commune, de la situation en cours, la perception globale et structurée, là on a cette référence un peu globale à la phénoménologie, pas un auteur en particulier, mais on voit bien que c'est ça qui est en jeu. Le terme phénoménologie apparaît aussi à plusieurs reprises d'ailleurs dans l'extrait, et en fait donc le présupposé ontologique que dépiste et que déconstruit Dreyfus ici, eh bien, c'est l'idée justement que les humains ne sont pas des esprits purement rationnels et qui sont donc régis par une logique à tout craint, mais que justement il y a de l'imprédictibilité, il y a de la nouveauté, il y a des choses illogiques qui peuvent apparaître comme illogiques et qui donc répondent finalement à des modes de fonctionnement en situation. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait la pensée de Dreyfus, c'est une pensée du contexte, c'est-à-dire c'est une pensée qui refuse un raisonnement qui serait un raisonnement purement autocohérent et qui considère qu'en fait le contexte est partie prenante de notre intelligence en tant qu'humain, le contexte donc le rapport au corps, et que cette dimension, eh bien, elle est inimplémentable dans une machine dite intelligente. D'où les limites, évidemment, de l'intelligence d'une machine de ce type. Il serait vraiment intéressant de regarder plus en détail donc l'argumentation de Dreyfus, mais voyez, bon, je vous ai donné un peu, je pense, le schéma d'ensemble, et puis donc à partir de là vous pourrez relire en détail ce chapitre 12, qui est donc le chapitre conclusif de ce livre. Terminer cette séance, qui est un peu une séance à marche forcée, j'avoue. Je vous propose quelques éléments, on a encore quelques minutes, je vous propose quelques éléments sur le deuxième versant donc de la greffe de la phénoménologie, mais sous le versant de son ajustement, de sa capacité à se transformer en prenant acte et appui sur ces deux diagnostics qu'on a regardés un peu en détail, donc le diagnostic intégratif de Varela et le diagnostic critique de Dreyfus, en nous intéressant rapidement, et c'est à titre préliminaire, évidemment j'y reviendrai la prochaine fois, en nous intéressant donc au projet de cet ouvrage donc, que je vous ai mentionné, donc à l'épreuve de l'expérience. Pour le fun, je vous remets la caméra pour vous montrer le livre, histoire de... Voilà. J'espère que ça va arriver. Autorisé à nouveau. Tac. Voilà. Donc, vous voyez rien du tout là, en fait, j'imagine. Attendez, je vais essayer de mettre ça autrement. Je vais retirer ça. Voilà. Là, je pense que c'est mieux. Donc, voilà. Le texte à l'épreuve de l'expérience. Tac. Donc, pour une pratique phénoménologique. Voilà. C'est ce livre-là en français. Et il est paru, vous voyez en bas, en rouge, il est paru aux éditions Zeta Books, qui est une édition à la fois électronique et papier international, qui est située à Bucarest. Donc voilà, c'est l'occasion de faire travailler les petits éditeurs aussi, et pas seulement les grandes chaînes de distribution. Et puis donc ça c'est le titre, le livre en anglais, donc On Becoming Aware, vous voyez, qui est paru donc en 2003, je crois, chez Benjamin's Press. Donc là c'est un éditeur un peu plus ayant pignon sur rue, qui est à la fois situé à Boston, à Amsterdam et à New York. Donc pour le dire rapidement pour commencer, je vais laisser ma caméra là, du coup, comme ça vous pourrez me voir un petit peu. Donc l'intérêt de ce travail, donc ce tournant pratique de la phénoménologie, hein, c'est de faire redescendre la phénoménologie sur Terre, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de lui donner vraiment une portée de mise en pratique, et pas simplement théorique. Alors l'idée, c'est pas de jouer l'un contre l'autre, mais plutôt d'ajouter, hein, de compléter, d'enrichir en fait le programme de la phénoménologie, en la faisant d'ailleurs revenir à son exigence initiale, en la remettant en relation, en prise avec son exigence initiale d'un retour aux choses elles-mêmes, comme je vous disais. Le noyau en fait de ce projet, il est au départ, donc je vais m'en tenir là pour aujourd'hui, il est au départ centré sur le sens de la méthode même de la phénoménologie déposée d'abord chez Husserl, qui est le terme d'époké, la méthode de l'époké. Donc époké, c'est un terme grec qu'on peut traduire tout de suite en disant que grosso modo ça signifie la mise en suspens des présuppositions. Donc vous voyez que là on est vraiment dans un travail critique à la Dreyfus, hein. On met en suspens les présuppositions, donc mettre en suspens, ça veut dire les mettre hors jeu, hein, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles ne soient plus prégnantes, qu'elles ne soient plus obnubilantes, hein, qu'elles n'aient plus de force de telle sorte de nous empêcher de voir le reste, hein, d'une certaine façon. Donc c'est prendre du recul, c'est se donner du champ. Et donc d'une certaine manière, le terme d'époquer que forge Husserl, et qu'il reprend en grande partie d'ailleurs au départ à la tradition sceptique, scepticisme antique, hein, donc par exemple Sextus Empiricus, mais c'est une reprise assez large, Sextus Empiricus, ou plus avant Pyrrhon, le fondateur du scepticisme en Grèce, mais c'est une reprise très très large en fait. Husserl fait son miel de ce terme et lui donne son sens propre à partir de son projet philosophique. Et donc on trouve en fait une première définition de l'époké, enfin une définition assez emblématique et assez référentielle de l'époké, dans un texte de 1913 de Husserl qui s'intitule, que j'ai déjà évoqué lors de la première séance, qui s'intitule « Les idées directrices pour une philosophie et une phénoménologie pure ». Je crois que ça s'appelle à peu près comme ça, c'est un peu un titre à rallonge. Et c'est au paragraphe 31. Donc on trouve une première définition de cette méthode. En fait, l'époké, c'est vraiment la méthode de la phénoménologie. Donc c'est à la fois une méthode spécifique, une méthode déterminante de prise de distance par rapport aux préjugés et aux présuppositions. Et vous voyez qu'en fait, c'est d'une certaine manière le cœur même de ce que peut appeler une réflexion philosophique. Puisque quand on réfléchit, quand on est philosophe, eh bien, on a l'œil en général attiré par les présuppositions, par tout ce qui est préjugé. Et donc là, finalement, l'ancrage cartésien aussi de Husserl est très important, puisqu'en fait, Husserl forge cette méthode de l'époké en prenant appui et en se différenciant de la conception du doute chez Descartes, qui lui aussi forge une méthode justement pour nous débarrasser des préjugés. Alors, ça prendrait trop de temps de montrer la différence entre le doute cartésien et l'époké de Husserl, c'est pas notre enjeu. Notre enjeu, c'est plutôt sur la base de la conception husserlienne de l'époké, qui se veut donc une mise en suspension de nos présuppositions, donc une sorte d'exigence toujours encore renouvelée, donc une sorte d'exigence critique fondamentale. Donc on est dans l'ordre de l'exigence, ici, dans le contexte husserlien. Et en fait, le but de « On Becoming Aware » ou de « À l'épreuve de l'expérience » en français, eh bien, c'est d'effectuer cette exigence. Donc c'est de passer sur le terrain pratique, de reprendre finalement l'exigence de Husserl, mais de se dire, en fait, l'exigence ne suffit pas, c'est une condition importante, mais elle n'est pas suffisante tant qu'elle n'est pas mise en œuvre. Donc il s'agit de mettre en œuvre l'époké. Il s'agit, grosso modo, l'ouvrage tout entier tient dans la volonté de mettre en œuvre l'époké. Et donc ça donne lieu dans l'ouvrage à un petit schéma que vous trouverez à la page 42 du chapitre 1. À la page 42, ça c'est dans le texte anglais mais vous le retrouverez facilement dans la version française. Donc qui correspond à la figure 2. Donc on reviendra dessus la prochaine fois. Et qui décrit ce qui est dit en anglais, ce qui est nommé en anglais, the process of becoming aware. The process of becoming aware. Donc le titre de l'ouvrage, hein, c'est On Becoming Aware. The process of becoming aware, qu'on peut traduire par devenir conscient. Et en fait, l'idée de l'ouvrage, donc là je vous montre le petit schéma que vous trouvez, donc que vous voyez là, en haut de la page, hein, qui est formulé sous la forme de trois obliques, hein, qui sont partiellement reliées, hein, qui interfèrent partiellement les unes avec les autres, ces trois obliques. Donc on y reviendra la prochaine fois, mais grosso modo, en fait, l'idée c'est d'avoir un petit modèle qui va décrire trois gestes internes, un geste de suspension, un geste de redirection et un geste de lâcher prise. Et ces trois gestes, qui sont des gestes intérieurs, sont reliés l'un à l'autre, donc ils sont à penser ensemble en synergie. Hein. Ils ne sont pas juste successifs et juxtaposés, ils sont à penser en synergie. Ils décrivent, pour les auteurs de ce livre, ils décrivent en fait une sorte de micro-modèle, on pourrait dire que c'est un micro-modèle du devenir conscient, qui prend appui justement sur le geste de suspension, hein, donc le geste de la prise de distance et de mise à distance des présuppositions. Donc c'est c'est un modèle qui intègre davantage de choses que le geste ou surlien de départ, hein, de l'époquer, mais qui le prolonge et qui le concrétise. Et qui surtout montre comment on peut le réaliser. Pas simplement le fait que voilà, c'est ça qu'il faudrait faire, hein, il faut faire cela, hein, ça c'est une sorte d'exigence, on pourrait dire une injonction, il faut le faire. Donc ne plus s'en tenir à « il faut le faire », mais montrer comment on le fait. Donc passer du « il faut » à « comment ». Donc avoir une attention, on va dire, opérationnelle sur comment on s'y prend pour pratiquer les pokés, comment on s'y prend pour déconstruire les préjugés. Et c'est vrai que très souvent, le problème de la philosophie, en général, c'est qu'elle donne beaucoup d'injonctions, elle dit beaucoup que voilà comment il faudrait faire, ce qu'il faudrait faire, mais ou pourquoi il faudrait le faire. Donc elle s'interroge beaucoup sur le pourquoi ou le quoi, mais le comment, eh bien souvent il est un peu passé à la trappe. C'est-à-dire le processus même, les différentes étapes de description du processus, de comment on s'y prend concrètement pour arriver à faire quelque chose, c'est paradoxalement quelque chose que la phénoménologie, là aussi, exige beaucoup, sans beaucoup le faire. Parce que effectivement, comme vous savez, une des injonctions de Husserl, c'est de passer du quid, du quoi, au comment, au quo modo, en latin, hein, le comment. Et donc on pourrait dire, toute la phénoménologie se résume dans ce comment. Hein, comment les phénomènes m'apparaissent, comment je décris, comment j'expérimente. Mais vous voyez que paradoxalement, Husserl, tout en nous parlant beaucoup du comment, bien concrètement, il ne décrit pas le comment. Hein, il le présente à nouveau comme une exigence, comme une injonction. Donc le projet de cet ouvrage, eh bien, c'est au contraire de se, comme on le dit un peu de manière familière, de mettre les mains dans le cambouis et de se dire, faisons-le vraiment. Hein, plutôt que d'en parler seulement, et plutôt de dire comment il faudrait le faire, faisons-le. Hein, donc c'est le but de ce petit modèle qui essaye de donner une méthodologie pratique d'accès aux phénomènes, d'accès aux choses. Alors, on reviendra évidemment, on va regarder plus en détail ce passage, hein, ce point de passage, la prochaine fois. Donc, ce sera la prochaine fois, on écoutera d'abord Bastien donc, nous présenter donc, le petit texte de Varela. Ensuite, je me centrerai vraiment sur ce projet de phénoménologie pratique. Je pense que ça nous occupera suffisamment. Et peut-être, ce que je vous propose, c'est de faire une relecture assez précise maintenant du texte de Dreyfus et aussi d'avoir un temps où on pourra discuter de plus près sur cet extrait et éventuellement sur la perspective de Dreyfus en particulier. Donc ça ce sera pour notre séance donc du 18, ce qui nous permettra donc de nous mettre dans les conditions pour aborder ensuite donc la pratique de l'intérieur du deep learning et le rapport à la microphénoménologie. Alors, si vous avez encore 2 minutes, on peut prendre quelques temps pour échanger, pour discuter, parce que finalement, je vous ai un peu lancé l'idée tout à l'heure, mais il n'y a pas eu trop de réactions immédiates. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. On peut prendre encore 5 minutes pour échanger. J'ai un peu un sentiment d'échange. Je suis restée en caméra, vous voyez. Le texte français de On Becoming Aware, c'est ça, à l'épreuve de l'expérience. C'est ce texte-là, de Dreyfus. Le texte français intégral, alors moi je ne l'ai pas. Comme je vous disais la dernière fois, je ne l'ai pas. C'est Nicole qui m'a fourni les photocopies parce qu'elle avait récupéré le texte français par un prêt interbibliothécaire, je crois. Mais apparemment il n'est pas du tout il n'est pas à Rouen, je crois qu'il n'est pas dans les bibliothèques de Rouen, donc du coup il faudrait demander à Nicole qui est encore avec nous, je crois, je ne sais pas si elle est déjà repartie. Non, je crois qu'elle est si elle est là, Nicole, vous êtes là, je ne sais pas, est-ce que vous avez vous une possibilité de alors vous n'allez pas scanner le texte entier de Dreyfus, c'est beaucoup trop long. Mais par contre, je ne sais pas si vous pouvez éventuellement vous concerter entre vous. Je ne sais pas où vous habitez et s'il y a un moyen de vous rencontrer d'une manière ou d'une autre pour un prêt éventuellement. Je ne sais pas comment se procurer ce livre, à vrai dire. Moi, j'ai le texte anglais et le texte français malheureusement est épuisé. Donc, ben voilà, c'est une très bonne option. Vous pouvez vous retrouver à la BU, effectivement, et voir ensemble. Oui, le travail que vous avez à faire, c'est uniquement sur le chapitre 7, que vous avez en fait, hein, puisqu'elle vous l'a déjà scanné, Nicole. Voilà, donc ça, c'est peut-être un moyen, si vous voulez avoir le texte en entier. Merci Annick, au revoir.